tenais d'abord à m'excuser parce que je vais devoir partir tout de suite après la présentation, mais Pierre restera s'il y a des questions qui évoluent aussi dans l'après-midi. Donc on vous présente, alors c'est une présentation beaucoup plus institutionnelle que ce qui a eu lieu ce matin pour les champs libres en particulier, en tout cas une présentation qui avait pour but surtout de vous montrer comment la question des projets numériques innerve à la fois notre direction depuis de très nombreuses années déjà, et surtout comment on arrive à travailler sur ce qu'on, je vais appeler le plan patrimoine. C'est vraiment le socle sur lequel notre direction travaille. Comme vous le savez, chaque fois qu'on parle de patrimoine ou patrimonialisation, on passe par les enjeux d'identification, d'inventaire, puis de préservation, de protection et de restauration, puis de médiation et de transmission. Et le tout nouveau venu aussi, enfin tout nouveau, pas si nouveau que ça, sur la question de la contribution, on va y revenir. Alors, comme direction territoriale d'une collectivité, enfin de deux collectivités territoriales, nous avons un plan patrimoine qui appartient donc à la politique publique de la culture, qui repose sur quatre grands axes, la contribution à l'attractivité de Nantes et Nantes Métropole, la mise en valeur du patrimoine nantais, l'accessibilité au patrimoine et la co-construction et le partage des connaissances. Donc autour de ces quatre grands axes, l'ensemble des projets que nous menons, qu'ils soient numériques ou pas, doivent pouvoir remplir ces fonctions, tout ou partie de ces différents axes. Et c'est vrai que assez rapidement, le numérique pour nous est devenu un enjeu, à la fois un enjeu, on va y revenir, soit en tant que projet à part entière, vraiment un enjeu sur on va dire, l'organisation de nos données et sur la façon dont cette organisation nous aide à remplir ces orientations, soit aussi parce qu'il y a eu un jeu d'opportunité qui s'est fait pour pouvoir travailler sur les différents axes du plan patrimoine. Alors, notre service public, s'il se définit par l'enjeu qui est que l'on se doit de garantir la collecte, la conservation, la valorisation, la transmission de la connaissance pour et avec les citoyens autour du patrimoine d'aujourd'hui et de demain pour donner du sens au territoire. Une phrase un peu longue, mais qui essaye de résumer finalement l'ensemble des composants de notre direction dans laquelle en fait on retrouve à la fois des métiers du patrimoine très différents, que ce soit architecte, archéologue, plutôt historien, spécialiste dans telle ou telle thématique, archiviste, spécialiste de la médiation. Tout ça pour dire que notre direction a plusieurs compétences dans lesquelles on retrouve un certain nombre de services qui concourent tous à cette idée, enfin, en tout cas cette phrase qui est inscrite au-dessus sur cette présentation. J'insiste sur le fait qu'il y a la notion de pour et avec les citoyens, pour revenir un petit peu à la discussion de ce matin autour de ce qui est proposé au champ libre. C'est vrai que c'est aussi évidemment la question des droits culturels qui est posée, et ces droits culturels qui sont aussi maintenant inscrits dans la loi. Ce n'est plus uniquement le travail de terrain des uns et des autres qui ont fait émerger les choses, mais maintenant, toutes les collectivités, toute politique publique doit inscrire la question des droits culturels dans son action. C'est inscrit dans la nouvelle loi 2016 LCAP. Et donc, on se doit, en tant que service public, de pouvoir proposer des choses autour de ces questions-là. Et on va y revenir sur la question du patrimoine, on va revenir sur la façon dont on va essayer, ou on essaie déjà d'y répondre. Alors, pour parler plus spécifiquement de la question du numérique, l'entrée était plutôt de vous montrer quels étaient un peu les grands projets autour de cela. Donc, du coup, je vais laisser un peu la parole à Pierre là-dessus.
Oui. Donc avant même de vous montrer des exemples d'usage du numérique vraiment au cœur de nos métiers et nos préoccupations au quotidien, dans cette première partie, ce qu'on voulait, c'est de repositionner vraiment la donnée et l'information patrimoniale qui est au cœur en fait de nos dispositifs numériques, au cœur de nos process. j'ai pas envie de dire au détriment des outils numériques, mais sachant que les outils numériques sont en constante évolution, nous, le parti pris qu'on a fait à la direction, et notamment pour assurer cet enjeu de durabilité des données et des dispositifs numériques liés, c'était vraiment de bien réfléchir à cette donnée et à cette information patrimoniale. Pour reprendre des termes, ce matin, c'est vrai qu'on s'est rendu compte, de fait qu'il y avait un contexte numérique qui était vraiment omniprésent dans le quotidien en fait, des agents, par en fait, une multiplication des projets où le numérique intervenait à différents niveaux, avec des usages vraiment différents, de la production à l'analyse jusqu'à la restitution. Un contexte où il y avait une production de plus en plus massive aussi de données numériques, avec une volonté aussi de pouvoir consommer cette donnée, cette information numérique de façon assez rapide, et une utilisation du numérique par tout un chacun. On en reparlait ce matin, et ça pose des questions aussi de compétences. Donc chacun utilise de fait dans ses missions le numérique, mais avec des degrés, notamment en termes d'acculturation numérique, différentes. Ce qui génère aussi donc, des dispositifs numériques à niveau différent, des productions de données hétérogènes. Une fois ce contexte un petit peu posé, on s'est quand même rendu compte en commun de besoins, notamment le fait de vouloir assurer une cohérence entre toutes ces données et ces dispositifs numériques. Pour répondre à ce besoin-là, en interne, on a fait évoluer notamment un poste, le mien, parce que j'étais chargé du développement du projet SIG, Système d'information géographique, et on s'est rendu compte en fait que ça balayait quand même un petit peu plus large, et donc on a fait évoluer ça en coordinateur projet numérique pour essayer d'assurer une urbanisation et une cohérence entre toutes ces données et ces dispositifs numériques-là. Deuxième besoin était de faire en sorte que ces ressources patrimoniales fassent l'objet en fait d'une gestion pour assurer vraiment leur conservation, leur transmission, leur pérennité. Et dernier point, celui de monter en compétences en disposant d'une culture numérique commune, déjà de base pour avoir un vocable commun entre collègues, parce qu'on se rend compte que vraiment on a des niveaux, c'est presque générationnel, mais des niveaux de rapport au numérique vraiment très différents. Pour ce faire, on a posé en fait les bases d'un système d'information au sein de la direction. Par système d'information, on entend bien donc un ensemble organisé entre un sous-système social, donc on parlait de structure organisationnelle humaine, donc c'est vraiment l'organisation des hommes, les méthodes, les tâches de chacun, mais aussi un sous-système technique, donc là on entend bien le côté matériel, logiciel, les process, les traitements informatiques. Une des caractéristiques, des données, des informations patrimoniales produites, étant le caractère en fait, l'ancrage territorial, et l'ancrage spatial au territoire, en fait, on est parti sur le développement d'un système d'information géographique. Un système d'information géographique, c'est un système d'information, qui permet la gestion de données repérées dans l'espace, le temps, et selon différentes échelles d'observation. Donc en cela, en fait, le système d'information géographique à la départ, c'est une des composantes du système d'information de la direction, mais ça ne répond pas à l'ensemble de la gestion de nos données. On a aussi une gestion des données et archives qui est dédiée plutôt là au pôle archives. Donc le SIG, c'est vraiment une des composantes du système d'information. On a construit le SIG autour d'une notion, d'une triptyque fonction, espace-temps. Et on a développé en fait des bases de données géographiques autour du patrimoine architectural et du patrimoine archéologique. Ces bases de données géographiques reposent sur des critères bien définis, des données uniques, donc le fait d'avoir des bases de données centralisées avec un accès commun, ça évite aussi la redondance de l'information. Le fait que ça soit des données interopérables avec des formats ouverts, reposant sur des modèles conceptuels de données bien spécifiques et répondant à des normes nationales. Le caractère homogène de notre donnée, donc en s'appuyant sur des thésaurus communs avec des contraintes de saisie pour essayer d'avoir un vocable commun au sein de notre direction. Des données actualisées, c'est important, avec des fréquences de mise à jour assez régulières. La fiabilité des données, pour ça en fait on s'appuie donc sur des approches scientifiques en termes de recherche, une approche méthodologique bien définie. Quand on parle de pertinence, enfin fiabilité et pertinence, on parle aussi derrière donc de la documentation de notre donnée avec les métadonnées et sur le fait que ça soit des données ouvertes. On reviendra sur ce point tout à l'heure. J'ai énuméré un petit peu ces points-là parce qu'en fait ces critères-là sont vraiment essentiels pour nous parce que ça garantit vraiment la durabilité de notre donnée, de nos informations patrimoniales et de fait ça va garantir en fait les dispositifs numériques qui y sont liés. Donc on a vraiment des bases de données et des outils, on parle bien d'outils qui viennent ensuite de façon un petit peu satellite puiser sur ce stock de données et donc consommer cette donnée. Rapidement, ça c'était juste une slide pour montrer un petit peu concrètement comment ça pouvait se traduire chez nous. Donc là j'ai mis une capture d'écran de cette base de données sur le patrimoine architectural qui permet en fait de cartographier les éléments du patrimoine et ensuite de les renseigner soit par de l'historique, des éléments de datation, des éléments de réglementation. Voilà. Ça c'est pour vraiment illustrer ce critère d'ouverture et de libération des données. On en a parlé ce matin déjà. C'était illustré par un exemple de la démarche d'Open Data Nantes qui a été initiée en 2011. Qui vise la libération donc, et le partage des données publiques pour tous. Et donc là, exemple concret.
C'était juste un exemple, en effet, mais Véronique pourrait en parler mieux que nous, finalement. C'est lors de la Nantes Digital Week, en effet, tout un fonds iconographique des archives a été libéré, en tout cas dans le cadre d'un hackathon où plusieurs étudiants ont fait tout un travail sur à partir de fonds iconographiques, comment ça pouvait donner naissance à des présentations ou des applications différentes. Donc là, c'est un fonds sur les bombardements de Nantes et puis les étudiants en 24 heures ou 48 heures, un peu comme le mode Muséomix finalement, mais uniquement sur la matière numérique, ont développé une présentation sur les bombardements. Donc on a des vues avant-après et puis des vues qui se chevauchent, qui se fusionnent de cette manière. Donc l'idée, comme le disait Pierre, les projets numériques que l'on mène, soit en effet par opportunité parce que tel ou tel acteur a tel projet et qu'on souhaite pouvoir l'identifier, soit aussi parce qu'à un moment donné, c'est aussi parce qu'on a des services et des archives dans notre direction, on doit aussi assurer en fait toute la production des données et leur fiabilité au sein de notre collectivité. Et c'est vrai que là, tout ce qu'on a pu vous présenter, notamment le SIG, c'est plutôt une structuration de données interne. Après, on verra la façon dont ces données-là peuvent à la fois être libérées, d'où l'exemple de cette manière, soit être un projet à part entière, et c'est le projet notamment du Wikipatrimoine que l'on pilote, qui va donner naissance donc à une sorte de mise en lumière ou en tout cas de libération un peu contrôlée, on va dire, de l'ensemble de ces données-là. Ensuite, alors justement, pour pouvoir vous présenter un petit peu la façon dont tous ces projets numériques arrivent à rentrer en résonance avec le plan patrimoine, Donc on a commencé par le premier volet, plan patrimoine, c'est la question de la recherche, hein, c'est la question notamment des inventaires, la recherche documentaire, la recherche aussi voilà, de sources. Et donc là, le projet numérique qui peut être mis en exemple, c'est pas le seul, et ce ne sont pas les seuls. À chaque fois, on essaye d'avoir un exemple concret, c'est justement l'usage du SIG. Donc, peut-être que tu peux montrer à quoi ressemble l'application.
La recherche en patrimoine utilise les outils numériques non seulement pour l'accès à la connaissance, mais aussi pour pouvoir en fait conforter ou modéliser des hypothèses de travail. Dans l'exemple qu'on vient de mettre ici, donc à travers l'utilisation du SIG, quand on parle du SIG, c'est un outil de cartographie, donc en interne on utilise un outil qui s'appelle QGIS, un outil libre, et des données SIG. Et donc l'exemple ici en fait montre par en fait la superposition d'un plan ancien, donc là ici c'est un plan CACO de 1756, et en superposant avec des données cadastrales actuelles, en fait, on a pu en fait valider des hypothèses de tracés d'enceinte médiévale sur le secteur des Cordeliers. Donc c'est vraiment un outil opérationnel, notamment dans le cadre des missions pour les archéologues ou pour les architectes. On a mis un autre exemple qui utilise encore l'outil SIG, et celui-ci c'est dans le cadre d'une fouille archéologique qui a été faite sur le secteur de la caserne Médinette à Nantes. Voilà, il y avait une idée de vouloir modéliser une hypothèse de travail. Donc, en fait, il y a eu des vestiges qui ont été mis au jour lors de cette fouille-là. Ces vestiges ont été traduits en données SIG. Il y a un géotraitement, donc c'est un calcul d'orientation en fait des vestiges qui a été réalisé, croisé avec des éléments de datation. Et ça, en fait, ça permet de poser des hypothèses, notamment de trames urbaines à différents pas de temps. Et c'est des hypothèses de travail qui, à terme, sont confrontées sur d'autres sites pour essayer de déterminer la validité ou non de ces hypothèses de travail. Donc, pour vous dire qu'en fait, c'est vraiment un usage très concret, très opérationnel de ces outils-là.
Autre exemple aussi qui peut être donné sur une partie plus liée à la préservation du patrimoine et à sa conservation. Ici, on a en haut à gauche, en fait, le sujet, c'est une salle à tracer des anciens chantiers du Bigeon. Alors, pour les non-nantais, les anciens chantiers du Bigeon sont des chantiers navals qui ont donné naissance à un certain nombre de grands paquebots, dont le BLM en 1896. Donc, les chantiers sont installés sur le site dit du Bas-Chantenay. Et en 1920, une salle à tracer dans le cadre de ce chantier est construite avec donc une salle à tracer. C'est une salle dans laquelle les ouvriers traceurs de coques venaient prendre des modèles à une échelle 1 pour les reporter sur des grandes plaques de bois qui étaient ensuite reportées sur des plaques de métal qui permettaient la construction du navire sur cale. Donc cette salle à tracer, en fait, dans les années 2000, là la photo en haut à gauche est une photo de 2014, existait toujours, elle était évidemment plus du tout en activité. Il faut dire que le traçage de coques sur modèle à l'échelle 1 perdure jusque dans les années 60, 50-60. Ensuite, on passe sur des tables à dessin avec des réductions d'échelle. Et puis après, c'est les conceptions assistées par ordinateur qui prennent le relais. Donc le métier de traceur de coques à l'échelle 1, il a totalement disparu. Donc il n'y a plus que les anciens qui peuvent en témoigner. Et du coup, cette pépite qui a été trouvée donc sur le secteur du Bas-Chantenay. Donc 1920, ce bâtiment était resté dans son état d'origine. Donc ça, c'est cette salle à tracer, ça fait 900 mètres carrés. Vous avez une photo d'archives des années 50 qui montre les traceurs de coques, la façon dont ils travaillaient. En bas à gauche, vous avez en effet les traces qui existaient toujours sur le tracé, sur le plancher. Donc ce sont les traces, on voit bien les traces du geste du traceur, et puis ces petits éléments de métaux qui étaient installés pour donner des repères. Ce Ce site en fait a été vendu et avait une destination de reconversion. Alors heureusement il n'a pas été détruit. Mais avant qu'il ne puisse être reconverti, l'idée c'était qu'on intervienne en termes de préservation. Et donc on a fait toute une campagne de relevés photogrammétriques du plancher. Donc c'est le petit monsieur en bas à droite qui se balade et qui fait des clichés photographiques à foison et sur 900 mètres carrés de long et en large. Et puis ce relevé photogrammétrique a donné naissance à un certain nombre de recherches, et donc les étudiants de l'École centrale y ont travaillé dessus et permettent de travailler sur des hypothèses. Alors aujourd'hui, je dirais, on conserve toutes ces données. Donc c'est là où on fait de la préservation grâce à l'outil numérique pour de futures valorisations possibles. Donc dans ce cas, on possède le plancher de la salle à tracer des années 1920 dans son entièreté, mais sous version numérique. Et sachant qu'aujourd'hui, dans la phase de reconversion, cette salle à tracer aujourd'hui est une salle de travail. Hein, ce sont des bureaux d'ailleurs. C'est des bureaux d'une agence d'architecture, donc c'est plutôt intéressant de voir comment l'usage finalement se perdure d'une autre manière. Et cette salle, enfin le plancher a été totalement recouvert, donc il n'est pas détruit. Et il y a, comme vous le voyez ici, dans cette petite. Là, en bas, là, voilà, il y a une petite ouverture de valorisation en plein milieu des bureaux qui permettent quand même de se rendre compte de ce qu'il y a juste en dessous. Voilà, donc là, le projet numérique a permis de préserver par l'étude, en fait, ce patrimoine, et puis est disponible pour différentes recherches par la suite. Autre exemple aussi, là, qui rentre plus dans la question de la restauration du patrimoine, vous avez à gauche une œuvre du sculpteur Gardet, c'est une œuvre de 1910, qui s'appelle « Le cerf, la biche et le faon ». Bien nommé. C'est une œuvre qui est assez monumentale, hein, qui fait 2 mètres sur 3 sur 5, qui pèse plus d'une tonne. Et cette œuvre est installée au Jardin des Plantes à Nantes, au début du siècle, hein, début du XXe siècle, a une histoire très mouvementée, d'ailleurs qui reste à écrire, puisque elle a fait partie de ces œuvres en fond qui étaient destinées à la fonte, hein, pendant la guerre, donc elle est partie, en tout cas une partie est partie. Pour finalement, dans les années 2000, se retrouver avec uniquement le fond. Donc vous avez cette image en bas à droite qui est au Jardin des Plantes, mais qui a perdu sa maman. D'ailleurs, on ne sait pas où elle est, la biche. Et en revanche, le cerf, on l'a retrouvé en dépôt dans le parc du Grand Boutreau. Bref, il y a toute une histoire assez intéressante à écrire sur cette sculpture. Et à un moment donné, on décide de proposer cette sculpture en programmation à la restauration. Et donc, pour pouvoir faire cette restauration, sachant que cette sculpture a une jumelle, si je puis dire, qui est au parc de Sceaux, donc en région parisienne, et bien là aussi, on est allé au parc de Sceaux et puis on a procédé donc à la photogrammétrie du même groupe de sculptures. Cela a donné naissance à un modèle numérique qui vous est présenté, une petite image en haut, en vert et bleu. Ce modèle numérique permet de pouvoir travailler des moulages. Donc les moulages, vous avez un exemple de ce moulage en bas à droite. Et le moulage permet de faire une fonte à nouveau, une fonte auprès d'un fondeur qui va réintégrer donc, cette sculpture au Jardin des Plantes dans son entièreté en septembre prochain. Alors l'intérêt dans ce projet numérique, je dirais, c'est que c'est d'une part ce double usage, on va dire, de la photogrammétrie qui permet de générer un modèle. Ce modèle a une utilisation, on va dire, artisanale pour le fondeur, mais il est aussi potentiellement un objet pédagogique que l'on travaille actuellement avec les étudiants de l'École des Beaux-Arts pour que ce modèle puisse être réutilisé aussi dans des créations artistiques. Et lors de la réimplantation de la sculpture au Jardin des Plantes en septembre prochain, il y aura à suivre une exposition des étudiants de l'École des Beaux-Arts sur la façon dont ils auraient pu interpréter ce modèle numérique, mais aussi la façon dont ils auraient pu croquer l'histoire de cette sculpture. Voilà. Donc ça, c'était un autre exemple. Et puis, je finis pas d'ailleurs, un autre exemple sur la valorisation. Ben là, c'est mon collègue Pierre qui va pouvoir plus en parler. Mais je vais peut-être faire un peu vite dans la présentation. Donc là, c'est plutôt un projet numérique à usage de valorisation. Donc vous avez en fait les dispositifs, enfin deux des dispositifs qui sont actuellement présentés au chronographe, donc à Rezé, un nouvel équipement métropolitain dédié à l'archéologie et qui est implanté sur le site de Saint-Lupien. Saint-Lupien, donc, qui est en fait les vestiges, qui représente les vestiges de l'ancien port du 1er siècle après notre ère, Raciatum, et qui porte de Loire. Et donc il y a une tablette, une table numérique qui est disposée sur le belvédère et qui montre en fait le paysage tel qu'il a pu être imaginé par ses concepteurs à l'aune du 1er siècle après Jésus-Christ, devant le paysage moderne. Hein, donc on voyait bien les dispositifs, hein, on l'oriente et puis on a à la fois la vision de ce qu'on a aujourd'hui et puis ce que ça pouvait être au début du 1er siècle. Et puis en bas à droite, vous avez aussi, c'est là aussi qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'une reconstitution 3D. C'est aussi un objet pédagogique pour les médiateurs du chronographe, puisque l'intérêt du projet numérique, c'est de montrer les résultats d'une interprétation de la recherche à un moment donné. Et évidemment, aujourd'hui, la recherche étant ce qu'elle est et ce qu'elle se développe, et il est tout à fait aussi possible que les hypothèses d'il y a 5 ans puissent évoluer et finalement se dire que ce n'est pas des barques à fond plat, mais plutôt d'autres types de barques, que ce n'est pas forcément ce type de toiture qui est représenté, qui est la réalité, mais d'autres types de toitures. Et donc, dans ce dispositif, il y a ces petites bulles qui apparaissent et qui permettent aux médiateurs de dire à quel point, finalement, tout cela n'est qu'une interprétation, et que cette interprétation, finalement, elle est aussi intéressante pour parler d'un processus, comme le disait Emmanuel Busquet ce matin, pour parler d'une démarche plutôt que d'un résultat. Voilà. Donc on dispose vraiment, enfin on utilise des projets numériques aussi dans ce sens, hein, à valeur pédagogique, et aussi pour traduire toute une démarche, plutôt que uniquement un résultat de médiation. Voilà. Et puis là, pour le coup, on passe au gros projet qui nous insère véritablement dans la question de la contribution et dans la participation citoyenne. C'est le Wikipatrimoine, je vais laisser la parole 5 minutes.
Oui. Le numérique bouleverse les pratiques culturelles et notamment les pratiques liées à la médiation culturelle. On se rend compte aussi que le numérique, c'est vraiment un formidable appui en fait, au partage, à la diffusion et à la constitution en fait de communautés pour favoriser la contribution citoyenne au patrimoine. Et de ce fait, en fait, on a lancé, alors maintenant depuis 2-3 ans, voilà, un projet donc qui est celui du Wiki Patrimoine. Ce projet il consiste en fait à la mise en place d'une plateforme numérique qui permettra à terme en fait de découvrir l'histoire de Nantes et de son patrimoine à travers différentes fonctionnalités qui sont énumérées au tableau et qui permettra aussi en fait aux citoyens de participer en fait à l'enrichissement des contenus de ce patrimoine à travers différents services de contribution. Donc on voit au tableau le citoyen aura la possibilité de rédiger des contenus, d'enrichir des contenus, de témoigner, de faire du don numérique, de partager son expérience vécue. Donc ça, c'est voilà, en ce moment, on est dans la phase de mise en œuvre technique du projet. Mais ce qui est intéressant en fait dans ce projet-là, outre cette plateforme technique et l'outil qui sera développé, c'est vraiment tous les dispositifs d'animation qui vont être déployés pour faire vivre et pérenniser en fait le dispositif. Il y a une réflexion stratégique sur l'utilisation des réseaux sociaux, vraiment pour pouvoir diffuser des contenus, mais aussi capter un public plus large qui est en cours de réalisation. Et vraiment la plus-value aussi de cette démarche-là, ça s'appuie en fait sur des appels à contribution qu'on va lancer auprès des citoyens. qui vont se matérialiser par des temps présentiels, animés par, pour le moment imaginés par des agents des archives, et qui vont en fait permettre d'accompagner les citoyens dans la co-construction en fait de contenu ou de connaissances patrimoniales. Donc voilà, ça va permettre de garantir aussi, on parlait de fiabilité des données, en essayant de leur apporter un bagage méthodologique dans la recherche d'informations. Donc voilà, on va essayer de vraiment mettre l'accent sur le côté humain, communauté, à travers des temps présentiels dans cette démarche.
Oui, en fait, on pourrait y passer des heures, hein, sur ce projet, parce que ce qu'on vous présente est vraiment une synthèse, une synthèse et d'une synthèse. Mais c'est vrai que ça correspond vraiment, j'entendais ce qui se disait ce matin au Champ Libre, ça correspond vraiment à une volonté d'une ouverture des questions patrimoniales sur le citoyen, en lui laissant la place qu'il doit avoir et en sachant l'accompagner. Donc il y a toutes ces procédures-là qui sont en train d'être réfléchies, sachant que là aussi on entre sur le sujet de se dire que l'important, ce n'est pas forcément uniquement l'article, mais c'est aussi toute la démarche qui a précédé à la construction de cet article qui est important, dans une logique véritablement d'appropriation tout simplement. Et c'est vrai que pour que le projet puisse être... en dehors d'un effet de mode ou d'un énième site internet, l'idée c'est qu'il soit véritablement adossé à un établissement municipal, enfin municipal en tout cas, un établissement culturel qui n'est pas prêt de disparaître, en tout cas, je ne pense pas, que sont les archives dans lesquelles finalement toute la politique d'animation se tend à s'ouvrir finalement à toutes ces questions de contribution et de participation citoyenne. Donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail parce qu'on pourrait y passer des heures, mais dans tous les cas, l'idée c'est qu'encore une fois, le numérique, en tout cas le projet numérique, doit pour nous, si on doit retenir un truc, c'est vraiment ça, doit pour nous être un phénomène pérenne, totalement pérenne et inclus dans le service public. Bon, pour aller très vite, et puis en plus moi je dois partir, je suis désolé. En termes de projet et de perspective, on a deux grands projets. On a deux grands projets. Donc le premier, je voulais quand même le relater, c'est vrai qu'on a contractualisé avec l'école centrale, l'université de Nantes, l'ENSA, donc l'école d'archi, une convention cadre de partenariat dont justement l'objet, on disait ce matin aussi, c'est à la fois la transdisciplinarité et puis le fait qu'il y ait plusieurs groupes d'étudiants, donc plutôt des historiens, des techniques, ensuite relayés par des ingénieurs d'école centrale, puis relayés par plutôt des architectes ergonomes qui travaillent de concert autour d'un objet du patrimoine et puis qui en font une modélisation puis une restitution. Et nous, on doit travailler à ce que cette démarche pédagogique d'abord puisse bien se faire entre les différents acteurs, mais aussi à valoriser cette démarche auprès des publics. Donc ça c'est un premier jeu, mais Pierre pourra en parler plus tard si vous avez des questions. Et le deuxième projet auquel je voulais faire référence et sur lequel j'aimerais quelque part faire un peu un appel à contribution cet après-midi, c'est justement fort du projet Wikipatrimoine qu'on souhaite mettre en œuvre. Alors on ne vous l'a pas dit, mais la première version du Wiki va sortir fin 2018. Donc c'est à la fois c'est dans bientôt, donc on aura quelque chose d'assez concret dès la fin 2018, mais c'est toujours été pensé comme quelque chose de très évolutif. Mais l'idée est véritablement de travailler à une sorte de... alors j'ai entendu, mais je suis arrivé en retard tout à l'heure, donc je ne sais pas si c'est de ça qu'on parlait, de laboratoire qui permettait d'avoir une sorte de veille prospective sur la question des usages, ou plutôt des pratiques, alors même si je suppose que les termes ne sont pas si... Nous aussi, en tant que professionnels, je ne sais pas trop si on me parle d'usage ou de pratique. Enfin bon, dans tous les cas, l'idée d'avoir une sorte de veille et de pratique, d'observatoire sur qu'est-ce qui fait naître des contributions auprès des citoyens, comment on pourrait les en faire naître, comment se passe la question des modérations, des régulations, l'impact des animations. Bref, là, pour le coup, on a besoin de l'université pour ça, parce que je pense que ça peut être de très très beaux sujets pour un laboratoire ou pour un doctorat, de travailler sur ces questions avec en plus un outil qui sera mis en ligne en 2018, enfin fin 2018, et donc qui pourrait être un outil d'expérimentation et d'observation assez concret. Voilà, donc voilà ce qui était pour notre présentation. On est un peu dépassé, désolé. Et je vais devoir partir très rapidement.
Merci messieurs, merci.
Merci.
Donc, si vous avez une toute petite question, sinon on enchaîne avec Lydia et comme ça après on va passer les questions.
Des questions hein, sur...